Londres, capitale britannique, c'est dans cette ville que Vincent vit depuis plus de 10 ans et c'est celle-ci qu'il nous présente, nous plongeant à la découverte du trading, des trésors royaux, de la gastronomie et de la mentalité so british.
Quand je pense à Londres, je retrouve toujours, et c'est ça qui me fait rester aussi, cette joie de vivre, cette possibilité d'être qui tu es, qu'on n'a pas forcément ailleurs. Je m'appelle Vincent, ça fait 12 ans que je vis à Londres et j'ai 33 ans. Je suis parti faire mes études à Lyon, puis à Paris, des études d'ingénieur. Et puis suite à cette formation, j'ai fait le choix de faire de la finance et Londres s'est imposé comme une évidence parce que surtout à l'époque, c'était un petit peu la capitale européenne en la matière. Alors à l'époque, c'était avant le Brexit. Il n'y avait pas trop de problèmes de visa, etc. Donc je me suis installé tout naturellement à Londres, comme je me serais installé n'importe où en Europe. Mais très vite, j'ai beaucoup accroché avec la ville. Quasiment le premier jour où je suis arrivé, je ne connaissais personne. Et donc, je prends le métro pour aller dans un quartier qui s'appelle Soho, près de Piccadilly Circus, qui est animé, où il y a des bars, etc., pour rencontrer du monde, pour voir un petit peu. Et puis alors là, je vois arriver dans le métro un groupe de filles. C'était en décembre, je me souviens, elles portaient des mini-jupes, mais alors, elles devaient avoir froid, mais alors, comme c'est pas possible, elles étaient mais complètement alcoolisées. Et elles rigolaient, alors elles se mettent à côté de moi, elles parlent entre elles, et alors elles parlent de sexe, elles parlent de leur vagin, enfin de trucs complètement, et moi ça me fait rire. Et elle voit que je rigole, alors elle se met à me parler. Elle remarque que j'ai un accent, un fort accent. Elle me dit, "Where are you from? I'm French. Oh, you're French, that's so cute. ¿Cómo estás?" Et j'ai trouvé l'anecdote assez rigolote de ces Anglaises complètement hors sol. Et en même temps, bon enfant, quoi. Et de la même manière, en fait, tu peux, si tu veux, être habillé de la manière dont tu veux, de manière complètement excentrique. Ou alors, de manière très classique, te balader en smoking sans que tu sentes le regard des autres. Par exemple, j'avais des amis du Sud qui sont venus me rendre visite. Et puis, à un moment donné, on a été interrompu, les routes étaient fermées par une course de cyclistes qui font ça à poil. Alors, des mecs, des filles, mais des milliers de gens. C'est un côté loufoque dans une... dans une atmosphère joyeuse et pas du tout... les gens rigolaient, quoi. Puis ouais, t'as des punks, t'as des quartiers, t'as Camden Town, qui est un quartier assez punk. Puis voilà, moi, ça m'arrive assez régulièrement d'aller à l'opéra, alors je m'habille bien, etc. Et je vois dans le métro, les gens ne s'y arrêtent pas, quoi. Vraiment, ouais, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Londres a quand même changé. D'abord, suite au Brexit, c'est beaucoup moins facile pour les Européens de venir s'installer ici. Exemple concret, ma copine veut venir s'installer ici. Il a fallu qu'on se paxe, qu'elle fasse une demande de visa. La demande de visa est excessivement chère. C'est un regroupement familial, en fait. Mais en gros, ça nous a coûté près de 7000 euros pour qu'elle puisse venir pendant 2 ans et demi ici, quoi. Ce qui fait qu'en fait, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans plein de domaines. Par exemple, le service, mais tu as aussi des stations de métro. Ça, j'ai trouvé ça hallucinant. On est quand même à Londres, la capitale du Royaume-Uni. Tu as des stations de métro qui parfois sont fermées par manque de personnel, en fait. Donc, il y a ce côté, il y a pas mal de pénurie de main-d'œuvre. Ça a changé aussi un petit peu l'ambiance. Je trouve que c'est quand même malgré tout un peu moins festif, un peu moins... Parce que, évidemment, le Brexit a quand même impacté l'économie du Royaume-Uni. Il y a eu aussi l'inflation liée à la guerre en Ukraine, qui a été plus importante qu'en Europe, encore une fois, probablement liée au Brexit. Donc ça a quand même pas mal attaqué la joie de vivre, je trouve. Pour tout ce qui est location, Londres, c'est excessivement cher. Et en plus, ce n'est pas comme en France où quand tu es locataire, tu es protégé, relativement. À Londres, si au bout d'un an, ton propriétaire veut t'augmenter le loyer de 1000 pounds, il le fait ou alors tu te barres, quoi. Et c'est arrivé. Pour acheter pareil, une propriété à Londres, c'est excessivement cher. Dans Londres, je parle. Pour une qualité d'appartement qui n'est vraiment pas top. D'un point de vue nourriture et tout ce qui est le coût de la vie, c'est cher aussi. Je pense que c'est un peu plus cher que Paris. On a souvent l'image de Londres où la qualité de la nourriture n'est pas top. je trouve que c'est vraiment faire mauvaise presse, parce qu'il y a de très très bons restaurants, de très très bonnes épiceries où tu vas trouver des produits de très bonne qualité. Je trouve par exemple des fraises gariguettes qui viennent du Var, mais à un prix pareil assez conséquent. Quoi. Il y a des gens du personnel de l'endroit où je travaille qui, je pense, ne gagnent pas très bien leur vie et qui me racontent que c'est très difficile, qu'ils sont obligés de déménager à 1h30 de train de Londres, alors qu'ils font déjà des horaires pas possibles, pour avoir un loyer qui leur permet juste de survivre. Quoi. Ceci dit, ce qui est assez marquant, c'est qu'il y a une grosse omerta quant à l'impact du Brexit. C'est-à-dire que les deux grands partis politiques au Royaume-Uni, que ce soit les Tories, les conservateurs, ou l'équivalent des socialistes, les Labour, parlent très peu en fait, de l'impact du Brexit. Parce que les Tories, ce sont eux qui ont fait le référendum, ce sont eux qui ont amené cette situation, donc pas trop en parler, surtout qu'ils sont très divisés de manière interne là-dessus. Et le Labour, les socialistes, essayent de ne pas trop cliver de ce côté-là la population non plus. Et donc, leur message, c'est de dire « bon, maintenant, c'est fait, il faut passer à autre chose ». En réalité, lorsque je suis arrivé, je me suis plutôt lié avec des gens soit français, soit italiens, enfin européens. Et je pense qu'en fait, c'était parce qu'il y a vraiment une différence culturelle entre les anglo-saxons et les latins. Quoi. Les anglo-saxons, ça ne dit pas toujours ce que ça pense. En fait, ça le dit, mais d'une manière... Il faut les comprendre, en fait. Il y a un certain code entre nous qui ne passe pas forcément tout de suite. Et avec le temps, en fait, moi-même, maintenant, peut-être devenu un peu plus anglo-saxon que ce que je l'étais avant. Et je me suis fait pas mal d'amis anglo-saxons. Ils sont très sympas. Il faut juste avoir des codes, en fait. C'est un peu comme partout, j'imagine. Les Anglais eux-mêmes sont très sympas en superficie, mais c'est vrai que pour avoir quelque chose d'un peu plus profond avec eux, il faut comprendre leurs codes, il faut apprendre à parler le même langage qu'eux, et pas seulement au niveau de la langue, mais vraiment tout ce qui est le non-dit, quoi. Et une fois que tu as fait ça, oui, maintenant j'ai plein d'amis à moi qui sont britanniques et avec qui je m'entends très bien. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Par exemple, ma boîte a aussi des bureaux à Paris. Alors là-bas, tu as la traditionnelle pause déjeuner, comme on a en France. Et pour un anglo-saxon, c'est complètement inimaginable. 100% des gens sur l'étage auquel je travaille, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher notre déjeuner quelque part dans un salade bar ou où tu veux, et puis tu manges sur ton bureau. En travaillant. Il y a des petites différences culturelles comme ça, et un Anglais ne pourrait jamais imaginer prendre une pause déj, quoi. Surtout dans mon milieu, quoi. Nous, en France, on aime bien un petit déjeuner avec des viennoiseries, etc. Eux, c'est au mieux un porridge ou des choses salées. Au pire, ça ne les gêne pas d'avoir un petit déjeuner avec un coca, une barre de Mars et un paquet de chips, quoi. Évidemment que tout le monde n'est pas comme ça. Mais oui, il y a des différences culturelles, certaines. Aussi dans la manière de manager en entreprise. Le français va avoir tendance à être très cassant, à être très direct. Voilà, je m'assure avec toi, il y a un truc qui ne va pas. Ça ne va pas. Sans forcément, d'ailleurs, mettre en avant les choses qui vont. C'est dommage. L'anglo-saxon, ça va être l'inverse. Ça va être, j'ai vu ça, très très bien. Par contre, ça, je ne suis pas sûr que... Quand on dit que je suis pas sûr que, c'est qu'en fait il est très sûr que ça va pas, quoi. Je travaille dans la finance, et plus précisément, je suis ce qu'on appelle un trader. Ça, en anglais, ça veut juste dire quelqu'un qui achète et qui vend des trucs, quoi. Et en plus, moi, je suis trader dans un secteur qui est très niche, ce qui fait que 90% des autres traders n'ont aucune idée de ce que je fais. Du stress, il y en a, surtout que on gère des milliards, quoi. C'est pas les nôtres, hein. mais on gère des milliards. Et donc, si tu fais une erreur, les conséquences peuvent être dramatiques. Trader, c'est un gestionnaire de risques, en fait. J'ai des risques de marché, des risques de réputation. Il faut arriver à rapidement estimer une situation, savoir prendre des décisions assez rapidement. Et voilà. Contrairement à ce qu'on pense, c'est aussi un métier où il faut savoir collaborer avec les gens. Tu vois, on a l'image d'Épinal du trader qui est devant son écran et puis qui, dès qu'il voit que c'est rouge, il vend, et dès qu'il voit que c'est vert, il achète, et puis après, il va faire un rail de coke et puis il est content. C'est pas du tout ça. Ça a peut-être été un petit peu comme ça avant, mais les différentes crises ont créé des besoins de régulation qui fait que maintenant, par exemple, j'ai pas le droit à mon téléphone sur le trading floor. Je peux être viré si je suis pris avec mon téléphone personnel sur Trading Floor. Pourquoi ? Parce qu'il faut, que toutes mes conversations, tous mes écrits, tout ce que je peux faire qui est lié au boulot, soit enregistré, écouté, alors soit par des gens, soit par des algorithmes. Pour un trader, tu as quelqu'un qui va contrôler ce que je fais sur le marché, quelqu'un qui va contrôler pour vérifier qu'il n'y a pas de risque de réputation. Enfin, je suis entouré de ce qu'on appelle control functions. Tu as des risques de conduite. Ben, le trader qui, par exemple, sur son téléphone privé, va essayer d'appeler son copain qui travaille dans telle entreprise pour avoir des informations, pour trader et pour faire des profits sur un truc qui n'est pas public, ce qui est interdit. Je pourrais aller, par exemple, en prison si je fais ça. Comme toute boîte, c'est essayer de faire de l'argent, mais sous contrainte de gérer tous ces risques. Quand j'étais plus jeune et plus junior, j'avais l'habitude de venir très tôt le matin, avant la fermeture des marchés Asie, et parfois rester très tard à la fermeture des marchés US. Depuis, l'équipe s'est étoffée, il y a moins besoin de ça, donc maintenant j'ai plus des horaires à 8h30 du matin jusqu'à 7h. Mais bon, enfin, s'il y a quelque chose qui arrive, il peut m'arriver de me lever très tôt le matin pour venir tôt. Il peut m'arriver de rester très tard s'il y a des problèmes, quoi. Le jour où il y a eu le Brexit, personne ne s'y attendait. Ça a été une pagaille pas possible sur les marchés. Autant te dire que le lendemain matin, tout le monde était là à 5h30, quoi. Alors, c'est pas un métier récent dans le sens où ça a existé tout au long du XXe siècle. C'est juste que tout ce qui est technologie a rendu beaucoup plus rapide la spéculation beaucoup plus globaux aussi. En 1918, ça prenait un certain temps. C'était pas instantané comme nous. Maintenant, moi, j'ai 8 écrans. Je vois tout ce qui se passe en temps réel. Je pense que dans le passé, effectivement, il y a eu beaucoup d'abus. Il y a de l'argent très facilement. Et puis, c'était moins régulé. Puis le soir, oui, il y a eu sûrement des abus où des gens qui allaient voilà, se droguer, ils prenaient de l'alcool, ils allaient dans des street clubs, etc. Maintenant, c'est très encadré dans le sens où, pareil, je pourrais très bien être viré si je suis pris en photo dans un strip club avec quoi que ce soit qui puisse m'identifier à ma boîte, quoi. C'est un peu comme un chirurgien. Je pense que, effectivement, si tu penses à la vie du patient que tu es en train d'opérer et que tu ne penses qu'à ça au moment où tu l'opères, non seulement c'est pas bon pour toi, mais tu risques en plus de faire une erreur. Je pense que au bout d'un moment, tu prends un certain recul par rapport à tout ça. Et puis pour ma part, dès que je mets un pied en dehors de la boîte, c'est terminé, quoi. Je pense à autre chose, je pense à mes passions. J'ai toujours aimé la musique classique, l'opéra. Je crois que je tiens ça de mon grand-père, qui lui-même était chanteur amateur. Lorsque j'étais à Paris en école d'ingé, je suis allé au conservatoire en parallèle. Et puis, lorsque je suis arrivé à Londres, j'ai souhaité continuer à prendre des cours. Alors, j'ai trouvé une prof qui est prof au Royal College of Music, qui est une excellente prof. À Londres, maintenant, j'ai un petit peu arrêté ces dernières années, mais pendant toute une période, je faisais partie d'une petite troupe qui se produisait de temps en temps des petits opéras, et on dirait pas, mais c'est un boulot immense en fait. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'il y a vraiment une incompréhension entre les deux mondes. Le monde de la finance, il y a de tout, mais voilà, pour la plupart, l'opéra, ils savent pas trop ce que c'est, quoi. Une balade que j'aime beaucoup faire, c'est partir de Tower Bridge, qui est un pont très ancien et dont l'architecture est très reconnaissable. Partir de là, le traverser, et puis après, remonter la Tamise jusqu'à Westminster, donc le Parlement, avec Big Ben. Et cette petite balade, je la trouve très intéressante parce qu'on passe dans un paysage très beau, sur les quais de Tamise qui ont été très bien aménagés. On passe d'abord par le Borough Market. C'est un marché couvert où on trouve des nourritures du monde entier. Mais tu peux aussi trouver des smoothies au gazon. Si tu veux manger des viandes comme de l'autruche, du boa ou je ne sais plus quel serpent, il y en a. Enfin, et puis ça vit. C'est vraiment un endroit qui vit, que je trouve assez intéressant. Donc tu passes par ce Borough Market, ensuite tu vas à la Tate Modern, qui est une ancienne usine qui a été en fait réaménagée en musée avec une très belle vue panoramique. Tu as une très belle vue sur Londres, et notamment sur Saint-Paul, la cathédrale Saint-Paul, que je recommande chaudement. L'architecture interne est magnifique. Parce qu'en fait, le dôme qu'on voit de Saint-Paul, c'est un faux dôme. Le vrai truc qui supporte en fait ce qu'il y a en dessous, au-dessus du dôme, c'est un sorte de cône. Et tu penses à l'intérieur de ces escaliers centenaires. Et c'est absolument magnifique. Et tu arrives, pareil, tu as une super vue. Voilà, la Tate, Saint-Paul, tu vois l'un et l'autre, avec au milieu le Millennium Bridge, qui est le fameux pont dans Harry Potter, où tu vois les méchants. Ensuite, tu peux remonter, passer par Trafalgar Square, qui commémore la victoire des Anglais sur les Français, avec ces immenses lions en bronze qui ont été coulés à partir de bronze pris dans les canons français lors de la défaite. Donc tu arrives à Trafalgar Square, tu as plein de musées très jolis, National Gallery que j'aime beaucoup, etc. Et tu peux remonter dans un quartier qui s'appelle Mayfair, qui est très chic, dans lequel il n'y a pas grand-chose qui peut se passer, mais dans ce quartier, tu as une ancienne église qui a été reconvertie en halle. Alors, tu as toujours cette église, tu as toujours les vitraux, etc. Et tu as, pareil, tu as un Thaïlandais, tu as un Mauricien, tu as un Somalien. Et il y a un petit rooftop sur l'église, quoi. Enfin, c'est un truc. Et le dernier truc que je voudrais mentionner, peut-être, ce sont les canaux. Donc, tu as la Tamise et puis tu as des petits canaux qui partent. Enfin, le jour où je les ai découverts assez tardivement, en fait, après plusieurs années passées à Londres, m'ont fait penser à Amsterdam. Tu as des petites péniches, tu as des gens qui vont faire leur footing. De temps en temps, tu as un petit café, un petit endroit où prendre un brunch, que je trouve assez charmant. Si je devais choisir deux plats anglais que j'aime beaucoup, le plat principal, c'est le Sunday Roast. En fait, c'est tout simplement du poulet avec pommes de terre, des légumes et une sorte de pâte à choux. Qui n'est pas une pâte à choux, qui est un peu difforme d'ailleurs, avec une sauce dans tout ça, mais qui finalement est très bonne. Et puis en sucré, je suis très très friand des scones. C'est une sorte de gâteau circulaire, et en fait que tu coupes en deux, et dessus tu mets une sorte de crème, ils appellent ça clotted cream, avec de la confiture. Et souvent ils font ça lors des afternoon teas que tu prends dans certains restaurants, ou alors tu as plein de petits sandwichs, tu as ces fameux scones que j'aime beaucoup, et puis tu peux avoir du champagne, du prosecco, etc. Et c'est ainsi qu'à 5h de l'après-midi, tu trouves des troupes d'anglais très éméchées. Ils sont fidèles à cette image, c'est-à-dire qu'ils ont une très bonne descente, et en toutes circonstances, ça peut être les matchs, ça peut être simplement l'afterwork du jeudi soir, ça peut être aussi, j'ai eu la chance d'avoir été invité par mon ancienne boîte à une course de chevaux qui est assez prestigieuse à Londres, où à l'époque la reine était venue, alors où tu as un dress code absolument impeccable, il faut avoir telle veste, tel pantalon, alors les dames, il faut des chapeaux, enfin, une rivalise d'élégance, etc. Alors moi, j'arrive là-bas, j'observe, et puis au bout de trois courses, en fait, ils étaient déjà tous bourrés, quoi. Ils boivent entre chaque course bière, à 10h du matin, hein. Enfin, c'est toutes les occasions, quoi. Et je trouve ça assez marrant, finalement. Ça dépend pas de ta classe sociale. Voilà, samedi soir, vendredi soir, tu vas au milieu de Londres, bah, t'as plein de gens dehors, éméchés, mais très sympas, et qui respirent la joie de vivre, quoi. Je suis devenu britannique, donc pour devenir britannique, tu dois passer des tests de culture générale sur le pays, sur tout ça, donc tu dois vraiment t'y intéresser. Ça, plus mon expérience avec des Anglais, a fait qu'en fait, je trouve que lorsqu'on est en Europe, on ne réalise pas à quel point le Royaume-Uni n'a pas fait le deuil de son empire. D'ailleurs, c'est assez rigolo, quand tu vois le roi Charles qui s'exprime, parce qu'il va souhaiter ses bons voeux au UK, et puis au Commonwealth, parce qu'il est le chef du Commonwealth. Et dans l'imaginaire britannique, le Commonwealth, c'est quand même quelque chose de très important, de très... Alors qu'en fait... En pratique, quand on regarde les données, peut-être il y a un certain soft power, mais ils n'ont pas tant d'un, enfin c'est pas si important que ça, quoi. C'est plus l'imaginaire. L'autre truc qui aussi me marque, c'est qu'ils restent très attachés à leur tradition. Tu vois, leurs vieilles écoles, elles ont encore les blasons d'il y a 200 ans, d'il y a 300 ans. Tradition monarchique aussi, quand tu vois, par exemple, quand tu visites Windsor ou Buckingham, ce sont des palais qui sont encore utilisés aujourd'hui. Tu vois, par exemple, tu visites Westminster. Tu peux voir le trône du roi sur lequel le roi est sacré, qui est un trône millénaire. Et alors, il t'en faut tout un pataquès. T'as une salle exprès pour aller voir ce truc, quoi. Un autre élément pour moi qui est assez marquant, différence culturelle, mais si tu veux faire plaisir à un Anglais, tu lui fais faire la queue. Ils adorent ça. Et la deuxième chose qu'ils adorent, c'est réserver en avance. À Londres, tu veux un restaurant correct, quoi. C'est minimum une semaine à l'avance, quoi. T'es en juillet-août, ils commencent déjà à faire les plans pour s'organiser pour Noël, quoi. Il y a une autre grille de lecture. Ah, eux, ils sont très protestants. Henri VIII, pour répudier sa femme, a déclaré qu'il était le chef de l'église anglicane. Et c'est, depuis ce moment-là, ils sont protestants. Et il y a ce côté très responsabilité individuelle, très organisé. Quand je compare les deux cultures, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, en fait. J'ai eu la chance de les connaître toutes les deux, de voir les côtés positifs des deux, de voir... les angles d'approche, les angles de vue des deux, savoir pourquoi, parfois, quand ces deux cultures se parlent, elles ne se comprennent pas. Il n'y a pas de surprise, hein. Pour mieux se connaître, il faut passer du temps ensemble. C'est comme les amis.